Grossophobie médicale par Marie-Lou Morin de Manger en harmonie. Définition de grossophobie selon le Petit Robert de 2019. Attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. C'est super que ce mot soit finalement reconnu dans le dictionnaire. Ça permet d'ouvrir la discussion et de reconnaître ce que vivent les personnes grosses. Bon, les mots « obèse » entre guillemets et « en surpoids » entre guillemets sont stigmatisés en soi. Il aurait pu être remplacé simplement par « gros »,« grosse ». Je dis stigmatisant parce qu'il se base sur l'indice de masse corporelle, l'IMC, qui a plusieurs lacunes. Tu peux aller lire ma publication sur le sujet dans l'onglet « blog ». Ils sont aussi stigmatisants parce qu'ils définissent une caractéristique physique comme une maladie. Ils impliquent qu'un autre poids, souvent plus faible, et souhaitable, il cause une détresse psychologique chez la personne concernée. Toutefois, mon article ne traite pas du choix de vocabulaire. Quand je travaille avec un individu, j'utilise l'appellation qu'il préfère employer et avec lequel il se sent à l'aise et respecté. Ayant un corps standard, je ne subis pas de grossophobie. À l'opposé, je profite plutôt des privilèges d'avoir un tel corps, aussi appelé le « thin privilege ». C'est donc pas à moi de dire quels mots peuvent blesser, mais plutôt aux militants et aux militantes qui sont en train de se réapproprier les mots « gros » et « grosse ». Sache que dans mes publications, j'emploie le mot « gros » et « grosse » comme un qualificatif au même titre que « grand » ou « grande ». Il n'y a aucune connotation négative ou préjugé associé. Quand on parle de grossophobie médicale, on parle de stigmatisation, discrimination à l'égard des personnes grosses par des professionnels de la santé ou le système de la santé. Petite note, la majorité des études présentées dans cet article sont américaines. Nous manquons désespérément de données au Canada, encore plus au Québec. J'espère que de plus en plus de chercheurs canadiens, canadiennes, se pencheront sur le sujet dans les années à venir. Le 27 novembre 2019, un reportage sur la grossophobie médicale était diffusé sur les ondes de Radio-Canada. J'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu Papillon, qui est journaliste, sur le sujet. Tu peux trouver le lien dans mon article si tu l'as manqué. Alors, ça ressemble à quoi la grossophobie médicale? Je te fais plusieurs petites mises en scène. Donc, à un rendez-vous chez ton médecin de famille, tu te fais peser par un ou une infirmière qui te dit que tu devrais perdre du poids parce que ton IMC dépasse une certaine limite. Tes habitudes de vie, ton état de santé, ton vécu, ton avis n'ont pas été validés. Autre scénario, tu te fais dire qu'on ne peut pas te peser parce que la balance ne supporte pas ton poids. Ou encore qu'on doit te peser sur une balance industrielle qui est dans le couloir, devant tout le monde. Ton père réside dans un CHSLD, un centre d'hébergement et de soins longue durée. Il ne mange presque plus depuis 2 semaines. On dit que c'est pas trop grave, il y a des réserves, ça va juste lui faire du bien. Un professionnel de la santé écrit dans ton dossier « manque de motivation, parce que ton poids ne descend pas. Selon lui, tu ne fais pas suffisamment d'efforts. Ou encore, il croit que tu lui mens, car clairement, ça ne fonctionne pas ton affaire. Tu te fais sermonner sur l'importance de te prendre en main et perdre du poids pour x, y, z raisons. Le pédiatre de ta fille de 9 ans l'apaise, lui annonce qu'elle est obèse, qu'elle devrait faire attention pour ne pas devenir plus grosse et même que ça lui ferait du bien d'en perdre un peu. Il lui demande de mieux manger et bouger plus. Dans toutes les cliniques où tu vas, chez ton médecin de famille, ton ou ta physio, à ta pharmacie, tu dois attendre debout parce que ton corps ne fit juste pas dans les chaises à bras standard. Ta meilleure amie se présente en fertilité, mais le traitement lui est refusé en raison de son poids trop élevé. Ses défis pour devenir enceinte n'ont rien à voir avec son poids. Ça, c'est sans nommer les équipements médicaux, qui ne sont pas toujours adaptés pour tous. Les IRM, les fauteuils roulants, lits d'hôpital, civières, brasseurs de tensiomètre pour prendre la pression, etc. Je pourrais continuer d'énumérer des exemples jusqu'à demain matin, mais j'arrête ici. Mon but, ce n'est pas de te décourager, mais de te montrer l'ampleur du problème. Je t'invite d'ailleurs à lire le livre de Michaël Bergeron, « La vie en gros, regard sur la société et le poids ». C'est sous forme de courts chapitres qu'il partage non seulement son expérience personnelle d'être gros dans notre société actuelle, mais aussi des études, des réflexions sur le sujet. J'ai été touchée par sa vulnérabilité, mais en colère aussi contre notre société. Bref, une excellente lecture que je recommande fortement. Alors, pourquoi il faut se préoccuper de la grossophobie médicale? Premièrement, parce que c'est répandu, non dénoncé et surtout accepté, la plupart du temps. C'est pas comme le racisme ou le sexisme. Alors, petite alerte au sarcasme ici. Condamner une personne grosse, c'est lui rendre service pour sa santé. C'est rendre service à la société parce que l'obésité coûte cher au système. De toute façon, c'est de leur faute s'ils sont comme ça. Fin du sarcasme. Ah, misère. Les professionnels de la santé sont à la base des êtres humains qui peuvent aussi avoir des préjugés, bien que les actes discriminatoires soient proscrits par la majorité des codes de déontologie. Ne nommons que l'article 17 du code de déonto des médecins. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. Une récente étude de 2019 sur 400 médecins de famille canadiens-canadiennes, dont 24 Québécois-Québécoises, confirme que la grossophobie médicale est un phénomène qui nous touche, bien que ce ne soit pas chez la majorité des médecins. Ouf, au moins. Heureusement que ce n'est pas systématique. Bon, ça, c'est l'optimiste en moi qui parle. De plus en plus de professionnels adoptent une approche inclusive à l'égard du poids. C'est encourageant, mais n'empêche. La stigmatisation à l'égard du poids est encore trop fréquente, problématique fois mille, puis il faut que ça cesse. C'est une question de respect. Pourquoi on doit se préoccuper de la grossophobie médicale? C'est aussi parce que ça retarde ou limite l'accès aux soins de santé. Donc, du point de vue de la personne qui subit la grossophobie. Une personne qui a vécu une expérience négative avec un professionnel de la santé en lien avec son poids va éviter de consulter ou repousser une visite de suivi ou pour faire des tests de dépistage. La peur d'être jugée, culpabilisée, de ne pas être écoutée, de ne repartir qu'avec une prescription pour perdre du poids. La honte de n'avoir pas perdu le poids tel que demandé au dernier rendez-vous ou pire, d'en avoir pris. Cet évitement ou ce retardement augmente le risque de ne pas diagnostiquer un réel problème et donc de traiter à temps. Sérieux, ça peut vraiment être dangereux. Une importante étude conduite par Sutton, Stephan et Terracciano en 2015 a démontré que 60% des 18 771 adultes étudiés avaient une augmentation du risque de mortalité lorsqu'associée à une discrimination à l'égard du poids. Donc, ça retarde ou limite l'accès aux soins de santé, mais aussi du point de vue du côté des professionnels de la santé. La stigmatisation proviendrait principalement des médecins de famille, qui sont en fait la première porte d'entrée en santé, mais touche aussi les diététistes, les spécialistes et tout autre professionnel de la santé. Plusieurs études montrent les conséquences de la grossophobie médicale. Pour en nommer quelques-unes par rapport aux médecins grossophobes, une étude qui a démontré qu'ils passeraient 28% moins de temps avec leurs patients, leurs patientes obèses, entre guillemets, car jugés comme une perte de temps, entre guillemets. Une réticence à faire des examens gynécologiques. Moins d'éducation et de suivi aux patients, aux patientes, perçus comme ayant une faible adhérence aux recommandations. Des stéréotypes envers les personnes grosses sont justement le manque d'adhérence au traitement, qu'ils ou elles ne prennent pas soin d'eux ou d'elles, sont paresseux, paresseuses, manque de discipline et de motivation. Les symptômes et problèmes nommés sont plus rapidement attribués à l'obésité, entre guillemets, résultant en une prescription pour un changement d'habitude de vie ou un régime au lieu de faire des investigations et prescrire une médication si nécessaire. Je vous partage une citation de Gabrielle Lisa Collard sur son blog « Mon médecin me déteste » tirée de son... de sa publication « Mon médecin me déteste » tirée de son blog 10 octobre. « La seule chose que mon poids a fait de négatif pour ma santé jusqu'ici est d'aveugler mes médecins qui ont laissé progresser une situation inutilement longtemps au point de potentiellement raccourcir ma vie. » Donc, on doit aussi se préoccuper de la grossophobie médicale parce que c'est associé à une détresse psychologique, incluant l'anxiété, la dépression, une faible estime de soi et une insatisfaction corporelle. Tu vas peut-être me dire, c'est bien beau la santé mentale, mais la santé physique, c'est aussi important. tout à fait légitime comme remarque. J'y réponds en partie dans la prochaine section, mais je t'offrirai une réponse complète éventuellement. Promis, ça prendrait trop de temps aujourd'hui. Donc, on se préoccupe aussi de la grossophobie médicale parce que ça favorise l'adoption de mauvaises habitudes de vie. Ben oui, toi, ça fait l'effet inverse. La pression sociale, la stigmatisation envers les personnes grosses et la détresse psychologique qui en découle ne motivent pas le changement positif. Ils sont plutôt liés à l'évitement de l'activité physique, l'augmentation du cortisol, qui est l'hormone du stress qui favorise le gain de poids, tiens donc, l'inflammation et l'augmentation de l'utilisation de la nourriture comme moyen de pallier aux émotions. Aussi, une personne qui a une faible estime de soi aura moins tendance à vouloir prendre soin d'elle et de son corps. Ça peut devenir un cercle vicieux, cette affaire-là. Puis c'est pas aidant quand tes professionnels de la santé, qui sont supposés te soigner, contribuent au problème en consolidant ta croyance que tu ne vaux même pas la peine d'être traité dans le respect. C'est préoccupant la grossophobie médicale parce que ça valorise les désordres alimentaires et ça favorise les troubles du comportement alimentaire. Je t'invite d'ailleurs à lire mon article sur le sujet « La nourriture, ton ami, ton ennemi » si tu te demandes c'est quoi un désordre alimentaire. J'ai trop souvent entendu des médecins dire à des individus qui ont un gros corps de perdre du poids, malgré la présence de comportements alimentaires malsains ou même de troubles alimentaires diagnostiqués. Encourager un trouble alimentaire, même indirectement, c'est juste non. Non. Surtout quand on sait que la restriction mène à une perte de contrôle et aux compulsions alimentaires. Je te mets une étude, en fait j'aurais pu t'en mettre plusieurs, mais bon, j'ai choisi celle-là, pour te montrer que je ne suis pas la seule à observer ça. L'étude se nomme « Weight Bias Among Professionals Treating Eating Disorders, Attitudes About Treatment and Perceived Patient Outcomes ». De plus, l'insatisfaction corporelle est liée à une perturbation du comportement alimentaire. De façon générale, les professionnels de la santé manquent cruellement de formation sur les troubles alimentaires. C'est plus difficile de détecter les vulnérabilités et les drapeaux rouges dans ce temps-là. Il est donc plus facile de nuire durant l'intervention. Finalement, est-ce que recommander une perte de poids, c'est une bonne idée? Bon, mon article est déjà épouvantablement long. Je te félicite et remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Mais promis, je vais garder ce sujet-là pour un autre article. Je te parlerai de conditions médicales qui se sont améliorées suite à des changements d'habitude de vie, sans observer de perte de poids. J'aborderai aussi les succès et les échecs des régimes. Tu peux t'abonner à mon infolettre si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr de recevoir l'article quand il sortira. J'aurai un petit message à ceux et celles qui subissent la grossophobie médicale. Je t'envoie un troc de compassion. Je suis sincèrement désolée et en colère pour toi. Sache que tu n'es pas seule et que tu n'as pas à subir ça. Jamais. Tu mérites d'être traitée avec respect et dignité comme tu es. Point. Regan Chastain, sur son blog Dances with Fat, offre des cartons avec des phrases clés pour lancer des conversations avec son médecin. Elle m'a gracieusement donné le privilège de les traduire pour toi. Tu peux les trouver directement sur son site. Je t'ai mis le lien dans mon article. Si tu es un professionnel de la santé, je t'invite à lire la suite de cet article qui t'est destiné. Bonne écoute ou bonne lecture.